différent aujourd'hui. On s'en va dans Michée au chapitre 5. Ceux qui sont familiers, Michée chapitre 5, c'est une des prophéties messianiques qui annonce la naissance de Jésus. Qu'est-ce que ça annonce exactement? Si vous êtes là, vous pouvez tricher, sinon... L'endroit, Bethléem, la maison du pain, le pain venu du ciel, Christ est la manne céleste et le pain de vie. Et donc, cette prophétie par le prophète Michée, dans Michée au chapitre 5. Hein, c'est pas pire, ça tombe pas si longtemps. Des fois, quand c'est d'un prophète mineur, c'est un peu plus long, là. Ça vire un petit peu plus longtemps parce que les gens ont plus de misère à trouver. On va lire les versets 1 à 5 et ensuite, je vais prier puis vous partager ce que j'ai à cœur de vous partager pour ce matin. Michée chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans des portes, et il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. » On va prier. On te remercie, Seigneur, que c'est ta parole qu'on entre les mains. Seigneur, ta parole, elle est vivante, elle est la vérité. Et merci que même si elle est attaquée depuis le tout début, à travers toutes les époques et même à notre époque, dans notre pays en ce moment, merci qu'on peut la tenir entre nos mains et se confier dans ses promesses merveilleuses. Merci qu'on vient de lire une promesse accomplie que le Fils, oui, il est né à Bethléem, il est venu. Merci aussi qu'on lit sur ce qui est accompli dans la domination de ce Fils, qui est un roi qui vient, qui gouverne, qui ramène la paix, qui donne une demeure assurée. Seigneur, merci pour les promesses de ta parole. On veut plonger les regards dans cette parole. Ouvre nos yeux qu'on contemple les merveilles de ta loi. Et ô Esprit du Dieu vivant, fais ce que juste toi peux faire dans chacun des cœurs. Et s'il y en a ici qui ne t'appartiennent pas encore, qui n'ont pas encore reçu Christ, le Sauveur, qu'aujourd'hui ils voient qu'ils ont besoin d'être sauvés, qu'ils se tiennent coupables devant toi et qu'ils ont besoin d'avoir le pardon par Jésus-Christ qui est venu une fois pour toutes pour compléter ce pardon. Qu'aujourd'hui, ils reçoivent la vie qui est en Jésus-Christ et que ton peuple réuni ici prenne une assurance en toi. Oh Seigneur, comme on en a besoin de se rappeler que tu domines sur les nations, tu domines Seigneur de toute éternité et c'est encore vrai. Aujourd'hui, le 19 décembre 2021, on te remercie pour ça. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Michée 5, c'est une belle prophétie par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'implications par rapport à l'incarnation du Fils qu'on va regarder ensemble. Mais un peu comme Ésaïe 9, 5 à 6 que je vous ai lu tantôt avant, que je vous ai lu avant l'offrande. Ce passage écrase la conception erronée du petit Jésus. Tu sais, des fois, les gens à Noël parlent. Non, Jésus, vraiment, il a été petit pendant un petit bout de temps, mais il n'est pas resté petit longtemps. Puis même petit faisait déjà trembler Jérusalem. Le roi Hérode, ayant appris la naissance de Jésus, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc, Jésus, on peut dire qu'il n'a jamais été petit. De toute éternité, il a tout le temps été le vrai Dieu. Il s'est incarné, il a pris une chair pour habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère sa venue à la lumière de du thème du mois de décembre, que Dieu nous révèle son évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et vraiment ici, c'est une bonne nouvelle que le prophète annonce. Le péché règne, ça allait pas bien, il y avait des ennemis, on l'a lu, hein, c'est nommé des Assyriens, des gens des pays qui étaient hostiles. Il dit, ah, il y a un roi qui va venir pour régner, pour gouverner. Mais vous savez que c'est bien plus que simplement un homme politique. Mais c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi de toute la terre. Le Messie est venu, Jésus, pour restaurer ce qui a été perdu à la chute. Tout ce qui a été perdu à la chute, il est venu pour le restaurer. Et de par son incarnation, c'est ce qu'on se rappelle. Que ce qui a été perdu à la chute, ça a été retrouvé à cause que Dieu est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est ça la bonne nouvelle, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et là-dessus, je vais vous lire Romains chapitre 8, versets 3 à 5, ça nous parle de l'incarnation, ça dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, on ne pouvait pas être agréable à Dieu par nous-mêmes, on ne pouvait pas offrir de justice qui nous était propre, parce qu'elle est comme un vêtement souillé, donc c'était impossible à cause de notre chair. » D'être agréable à Dieu, ça dit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Semblable. Pas pareil. Le fils est incarné, mais sans jamais péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. J'aimerais juste qu'on voit brièvement, ça va être assez simple comme message ce matin, Dieu qui révèle l'évangile de sa domination, la bonne nouvelle du fait qu'il domine.
Amen.
Avez-vous déjà pensé à ça de même? L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu règne, que Dieu domine sur le règne des hommes.
Amen.
Je pense qu'on a besoin de se rappeler ça en ce moment. Savez-vous que Satan voudrait prendre le haut du pavé, voudrait faire la vedette, voudrait faire son super-héros? Mais c'est une créature et il est sous le règne de Dieu. Et s'il fait des choses en ce moment, c'est parce que Dieu lui permet. Il a fallu qu'il ait demandé à Dieu la permission, comme dans Job. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne fait que ce que lui est permis de faire. Il est une créature qui répond lui aussi à son créateur. Donc j'aimerais qu'on voit, dans ce contexte-là, trois bénéfices de l'incarnation. Trois bénéfices de l'incarnation. Dans le verset 1, on voit la domination de la restauration de l'Évangile. Regardez bien, au verset 1, ça dit « Et toi, Bethléem, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi. » Avez-vous remarqué? Donc, de Bethléem sortira pour moi. C'est qui ce moi? C'est Dieu. Je veux juste qu'on réfléchisse là-dessus. « De toi sortira pour moi. » Savez-vous que la raison première de la venue de Jésus, du Messie, c'était pour Dieu le Père. C'était pour son œuvre, pour lui-même, pour sa gloire. Si vous voulez un petit refresh là-dessus, un petit peu, vous ramenez ça, vous lirez Éphésiens 1. Éphésiens 1, on voit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, mais que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu le Père. Puis c'est un beau passage trinitaire qui nous parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit qui sont impliqués dans l'œuvre de rédemption. Mais j'ai retenu juste quelques versets dans Éphésiens 1. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'était son plan qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Hein, on apprend ça que Jésus est venu exactement au moment où il devait venir, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux sur la terre. Donc l'œuvre de rédemption, c'est une œuvre par Dieu, pour Dieu, à la gloire de Dieu. Il faut comprendre que la mission première de Christ, c'était pour Dieu, c'est de toi sortira pour moi. Mais bien évidemment, on a beaucoup de bénéfices de cette. Les bénéfices sont merveilleux de cette libération de l'œuvre de Christ que le Père a envoyée pour accomplir sa mission, pour se glorifier. Mais c'est un produit dérivé. on bénéficie de l'œuvre de Dieu, on a le privilège de rentrer dedans, mais c'est Dieu qui l'a fait pour lui-même, pour montrer qu'il est le roi qui domine, qui est venu restaurer ce qui avait été perdu en Éden. De toi sortira pour moi. Pourquoi c'est important? Pourquoi je prends le temps d'expliquer ça? Pourquoi c'est important de le comprendre et de le croire? Parce que l'Évangile ne doit pas être centré sur moi, ma petite vie, puis mon petit moi. C'est tellement plus que ça, l'Évangile. L'étendue de la restauration de l'Évangile, c'est tellement plus que juste ma personne. Oui, ça l'inclut ma personne quand je le reçois, mais c'est tellement plus grand que ça. L'Évangile restaure la domination bienveillante de Dieu sur toute sa création. C'est ça, la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans le Jardin d'Éden, on a donné cette domination à l'usurpateur. Avec le péché, on a donné à Satan, ce voleur, on a donné la domination, mais Jésus est venu la reprendre. Et il est venu la reprendre de droit, cette domination, et il s'est rassemblé un peuple qui l'adore, qui le glorifie. Il a tout fait ça avec l'œuvre de l'incarnation qui a continué pour accomplir l'œuvre de la rédemption, son œuvre expiatoire. Et combien cette vérité, mes amis, cette réalité est précieuse en ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu nous permet de passer par des moments où est-ce qu'on voit les effets de la domination de Satan et de l'homme avec son cœur trompeur. Lequel est le mieux? Qu'est-ce qu'on désire maintenant? Est-ce qu'on est content avec le règne de ce monde, les choses comment ça va dans ce monde, ou est-ce qu'on ne soupire pas? Est-ce qu'on ne reconnaît pas que, oh, le règne de Dieu est tellement mieux? Amen. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit dans cette prophétie. De toi sortira pour moi celui qui va dominer sur Israël. C'est la domination bienveillante de Dieu. Quelle bonne nouvelle qui a été perdue et restaurée. Et j'aimerais juste vous dire que il y a beaucoup de ramifications dans ce monde et ça a commencé, ça fait longtemps, mais j'aimerais vous dire aussi que c'est effectif maintenant. Le règne de Dieu, oui, ok, on attend des choses qui sont encore pas pour l'avenir, mais il y a tellement de choses qui sont maintenant pour le présent. L'Évangile affecte en ce moment, juste pour une chose qu'on peut se rappeler, et je viens d'y référer brièvement tantôt, mais si on se rappelle en tant que peuple de Dieu, que celui qui domine, celui à qui nous devons l'allégeance, la soumission, c'est notre Dieu, et qu'on lui fait confiance, il y a une paix, il y a une sécurité là-dedans, puis il y a un détachement de la peur que ce monde veut essayer de nous inculquer en disant, non, notre Dieu règne. Puis on n'est pas les premiers, vous rappelez-vous, j'ai partagé cette semaine dans un courriel que j'ai envoyé, Martin Luther, dans une époque de persécution aussi, a dit, laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Tu sais, ça parlait d'enlever les biens et tout ça. Laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Amen. On est dans le royaume de celui qui règne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire réellement que vous êtes dans le royaume de Dieu, que vous avez été inclus dans ce royaume? Pourquoi vous le seriez plus qu'un autre? Une seule raison. Si vous avez répondu à l'invitation du roi. Christ est venu comme roi et il donne l'ordre de se repentir. Ne rentre pas dans son royaume qui le veut. Seuls ceux qui s'humilient, c'est un grand roi qui règne et on n'arrive pas devant lui en collant les shots, comme on dit en bon québécois. On arrive devant lui en s'humiliant et en reconnaissant qu'on est perdu et que c'est lui qui sauve et que son règne est un règne bienveillant qu'on doit s'y soumettre. On fait confiance au fait que c'est lui qui est digne de toute notre confiance, notre adoration pour le salut de notre âme, si vous n'êtes pas sauvé ici encore aujourd'hui, mais aussi pour les enfants de Dieu. Que Dieu ne mérite pas juste les restes, puis pendant une journée dans la semaine, une matinée peut-être. Non, Dieu mérite absolument tout. Toutes les journées, tout notre cœur, pour toute notre vie. C'est la première chose, premier bénéfice de cette incarnation. La deuxième, on l'a dans le verset 2, l'attente de la restauration de l'Évangile. Regardez ce que ça dit au verset 2. C'est pourquoi il les livra jusqu'au temps où elle enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. On voit, il y a une attente ici, évidemment, l'attente du Messie qui devait venir. C'est-à-dire, il les livrera jusqu'au temps où? Jusqu'au temps. Il y a une grande leçon ici, quant à ce qui est l'objet de notre confiance. Vous savez, quand on attend, c'est là qu'on révèle où est notre confiance. C'est pas facile d'attendre. On est tout bon quand les choses vont bien, mais quand on attend la délivrance, quand on attend que les choses se passent comme Dieu peut le faire, là c'est plus dur, c'est là la réalité de où est notre confiance. Est-ce que j'y vais avec les moyens que je peux prendre, avec les machinations humaines? Vous savez, la promesse du Messie qu'on voit ici était d'abord une question de confiance en Dieu et en ses promesses. Regardez tous ceux qu'on appelle les saints de l'Ancien Testament. Ça nous dit dans Hébreu qu'ils ont salué de loin les promesses, ils ont vu, ils attendaient le Messie, puis ils l'ont entendu, puis ils n'ont jamais eu la récompense de voir de leurs yeux celui qui attendait, mais leur confiance était là. Et pour nous, on regarde de l'autre bord, nous voyons que Christ est venu, c'est ce qu'on célèbre en ce moment. Mais où est notre confiance? Est-ce que lorsque les choses deviennent dures, est-ce que lorsque mon espérance a tendance à s'effriter, lorsque les coups de la vie me frappent, lorsque les relations vont de mal en pis, lorsque j'ai des déceptions, où est ma confiance? Est-ce qu'elle est dans le Dieu auquel je m'attends en silence? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ou est-ce que je m'en remets aux machinations humaines? Je résorbe au bras de la chair. Ou si je m'en remets au bras de l'Éternel? Vous savez, ça a toujours été le cas que les enfants de Dieu ont attendu après Dieu et ses promesses. Que ce soit avant, que ce soit maintenant. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Dieu nous force à l'attendre. Pourquoi? Pour qu'on soit forcé à dépendre de lui. Mais c'est pas fin ça. On n'aime pas ça, nous autres, dépendre de quelqu'un. Le seul qui est digne qu'on dépende de lui en toute chose, c'est Dieu. Puis c'est bon quand il nous force à ça. On n'aime pas ça dans le champ parce qu'on a une nature fondamentalement rebelle qui n'aime pas ça, avoir à soumettre de même. Mais écoutez ce que ça dit encore dans Lamentation, je vous ai cité 3:26, mais regardez ce que ça dit, écoutez ce que ça dit en 3:28. Dieu ici, ça parle qu'il va faire tenir celui qui s'attend à lui, solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Dieu, il peut faire ce qu'il veut, puis il nous impose de l'attendre bien souvent. Il nous met à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il veut briser cette confiance qu'on a en nous-mêmes, dans nos idoles, dans nos moyens, pour qu'on s'appuie sur lui et lui seul. Dieu veut toute notre confiance et c'est plus important que notre confort, puis que ça aille bien, puis qu'on aille les choses comme on voudrait. Amen. C'est un bon amen, mais c'est un amen dur à dire quand que c'est ouais. Nous qui passons par là. Oh, mes amis! Mais, c'est jamais en vain. Quand on s'attend comme ça à Dieu, c'est par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il récompense ceux qui le cherchent. C'est pas en vain qu'on cherche Dieu, c'est pas en vain qu'on l'attend. Parce que Dieu récompense, ça va valoir la peine. C'est mon appel encore. Je suis conscient que on a une réunion spéciale aujourd'hui où est-ce que l'appel de l'Évangile est lancé. Et si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un autour de vous, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, il y a quelqu'un autour de vous qui prie pour vous et qui vous a déjà présenté l'Évangile. Vous avez entendu. Mais est-ce que vous avez répondu? Et savez-vous quoi? Il faut qu'on s'approche de Dieu comme ça en croyant que ça vaut la peine. Est-ce que je vais à Dieu puis je peux croire qu'il peut me sauver de tous mes péchés, qu'il peut me délivrer de la puissance du péché, de la pénalité du péché dans ma vie? Vous devez le croire parce que Dieu le promet. Ça a été dit tantôt. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il l'a envoyé une fois pour toutes afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça m'amène au troisième point. Non seulement il y a la domination de l'Évangile, l'attente de l'Évangile, mais aussi le repos. Le repos de l'Évangile. Lorsque Dieu restaure, il y a un repos. Regardez au verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ça dit qu'il va gouverner, il vous ramène à ce règne bienveillant qui mène au vrai repos. Ça nous parle ici d'une demeure assurée. N'est-ce pas Jésus qui a dit lui-même, lorsqu'il était avec les disciples, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Puis là, hein, vous savez, il y en a qui demandaient, « Ouais, c'est quoi le chemin? » « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, une demeure assurée, puis ça nous dit aussi au début du verset 4, « C'est lui qui ramènera la paix. » La paix de Dieu est un repos qui est incomparable. Dans le cœur de ceux qui le reçoivent, si... Vous ne connaissez pas encore cette paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient de Dieu. Ça ne sert à rien de la chercher n'importe où ici-bas. Il y a des choses qui donnent une satisfaction temporaire, mais c'est temporaire. Puis ça nous laisse non seulement sur notre soif, mais ça crée encore plus de soif puis ce sentiment d'insatisfaction. Ça, c'est Dieu qui nous appelle à lui, qui est le seul qui satisfait vraiment. Dieu est celui qui donne le vrai repos. J'ai prêché là-dessus il y a une couple de semaines. Jésus a dit à ceux qui étaient religieux, puis donné à toutes sortes de rituels, de choses qui étaient aussi basées dans la parole de Dieu, mais qu'ils ne le connaissaient pas. Puis Jésus a invité ces gens-là à venir à lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Dieu donne le vrai repos, celui de son salut, le vrai repos de nos œuvres. Vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on soupire après ce repos. Et on est dans un monde fatigant. Surtout, dans ce temps de l'instant, si l'année, on dirait qu'on le reste en plus. Les journées sont plus courtes, on a moins d'énergie. C'est fatigant, pareil, être dans un monde tout croche de même. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce soupir dans les enfants de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, il y a quelque chose en vous qui soupire après cette rédemption, cette délivrance. Je ne devrais pas dire quelque chose, je devrais dire quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu. Le même chapitre de Romains 8, c'est-à-dire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous savez, on vit à une époque sans précédent où est-ce qu'on voit la peur qui fait des ravages absolument partout. La peur domine ce monde, c'est incroyable. Ça dit que le monde entier est sous la puissance du malin, et ce malin fonctionne avec la peur. L'instinct de préservation, ça nous dit dans Hébreux que par crainte de la mort, ceux qui ne le connaissent pas sont retenus toute leur vie dans la servitude. Mais ici, on vient de lire que l'esprit dans les enfants de Dieu, c'est pas un esprit de peur. Ça dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est l'inverse de ce qu'on voit dans l'Hébreu. Si on est un enfant de Dieu, c'est pas qu'on a peur de rien et qu'on est complètement au-dessus de nos affaires, mais l'Esprit nous réconforte, c'est le consolateur. Il nous calme de nos peurs. C'est pas qu'on n'a pas de peur, c'est qu'on est consolé de nos peurs. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que vous connaissez celui qui vous console? Qui a consolé vos âmes en vous faisant connaître le vrai salut, la vraie vie? Et est-ce que vous pouvez dire que vous le connaissez? C'est pas une chose, c'est pas une religion, c'est une personne qui nous réconforte, qui nous sauve. Puis une fois qu'on est sauvé, qui nous donne absolument tout ce dont nous avons besoin parce que nous avons tout pleinement en lui. Et Dieu donne en ce moment, dans ce monde brisé, troublé, ébranlé par le péché, il donne le repos. Le repos, c'est le plus grand trésor qu'on a ici-bas. Le prince de paix lui-même, celui qui est notre paix, notre repos, si on est rentré dans son repos. Écoutez là-dessus, un appel à l'évangile avec le repos dans Hébreux, au chapitre 4. Car la parole, au chapitre 4, « Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, c'est quand ça? Aujourd'hui. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, c'est le vrai repos dans la terre promise, Dieu ne parlerait pas après d'un autre jour. Il a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Si aujourd'hui vous entendez sa voix qui vous appelle à lui, qui vous appelle à être réconcilié avec lui, endurcissez pas votre cœur. Si il y a quelque chose qui résonne en dedans de vous, ou est-ce que vous voyez que vous connaissez pas la réalité de ce repos, endurcissez pas vos cœurs. C'est Dieu dans sa bonté qui vous appelle à lui, qui vous appelle à être réconcilié à lui. C'est lui qui veut gouverner dans votre vie, régner dans votre vie. N'ayez pas peur de ces mots-là, parce que c'est le seul que c'est bon. Vous avez probablement essayé de régner dans vos vies, ça ne marche pas. Puis on voit comment dans ce monde aussi, il y en a juste un qui a un règne bon, bienveillant et parfait. C'est Dieu. Amen. Dieu lui-même. Ouais. Donc, est-ce que tu peux dire que tu jouis de ce repos en ce moment? Et je dirais, pour avoir la vraie réponse à cette question, je veux juste vous lire deux versets qui font appel au fait que Dieu est vivant puis il sonde les cœurs. Il fait par la parole, écoutez, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et miel et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Si la parole de Dieu met le doigt sur ton cœur, c'est parce que Dieu veut te montrer ton état, puis que tu sois réconcilié avec lui. Et écoutez maintenant, il y a la parole de Dieu, mais aussi l'Esprit de Dieu, la prière à Dieu. Dans le psaume 139, vous pouvez, si vous êtes confus, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez simplement prier comme le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, on a vu la domination de l'Évangile. Quelle domination tu recherches, Martin? Je peux vous garantir, c'est si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit qui est en vous veut, recherche, soupire après la domination de Dieu. Même si votre nature pécheresse têtue, elle regime constamment. C'est pas juste la vôtre, la mienne aussi. Mais il y a un soupir, l'Esprit soupire en dedans de nous. Sous quel règne veux-tu vivre? Veux-tu te placer? Sous celui du bon berger? Ici au Québec, on dit souvent le bon Dieu. Écoutez ce que ça nous dit sur le bon berger. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, afin qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutez un autre beau passage sur le règne du bon berger. Il a porté lui-même nos corps, nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, où est ta confiance ce matin? Est-ce que tu vas te confier dans ce bon berger? Ou est-ce que tu vas continuer peut-être à croire, et je dirais par orgueil, que ton règne est meilleur que ta façon? Vraiment? La Bible me dit que notre cœur est tortueux au-dessus de toute chose. Qui peut le connaître? Comment je pourrais faire confiance à mon cœur? Pense-y bien, il a fallu que Jésus quitte le trône céleste pour venir s'humilier par mourant d'une mort effroyable, celle de la croix. Puis tu penses que tu peux t'arranger autrement? Que tu peux faire bien, tu peux faire mieux? Que ce qu'on célèbre depuis 2000 ans, que Dieu qui est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, remets pas à plus tard ce que Dieu commande, ordonne de faire maintenant. Écoutez Actes, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon ce qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce n'est pas une option. Dieu ordonne qu'on se repente, qu'on croit à celui qui l'a envoyé. Et mes amis, si vous êtes ici en tant qu'enfants de Dieu, vivons à la foi, dans la foi, au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous, et que Dieu puisse, comme ça, à travers son peuple, plus que jamais, dominer, exercer sa domination. Savez-vous que c'est actuel? Dieu veut que la domination de l'Évangile soit vécue maintenant. Pour ça que ce n'est pas le temps de fléchir le genou devant Baal, devant César, mais seulement devant Christ. C'est tellement actuel ce qu'on vit. De quelle domination nous recherchons? À qui nous fléchissons le genou? Nous sommes mis par Dieu lui-même. C'est Dieu qui permet les décrets qu'il y a là pour que notre allégeance reste, demeure à lui et à lui seul.
Amen.
Merci Seigneur pour le fait que tu te révèles majestueusement dans ta parole. Merci pour Michée qui nous annonce la naissance du Fils qui va dominer sur Israël, qui va dominer d'un règne qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, oui, on veut te glorifier. Satan est déchaîné, il voudrait taire ta voix, écarter ton peuple. Mais Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est à toi seul que nous voulons donner la gloire, c'est toi seul que nous voulons obéir, c'est devant toi qu'on fléchit le genou. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fléchi le genou devant ta Seigneurie en te reconnaissant comme le seul sauveur, je te prie que cette personne aujourd'hui fléchisse le genou aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. Parce que tout genou va fléchir. Mais est-ce que ça va être maintenant, de façon volontaire, joyeuse, en se confiant en ton salut pour recevoir ta grâce? Ou est-ce que ça va être pour faire face à ton jugement? Tout genou va fléchir de toute façon. Je te prie que s'il y en a ici qui n'ont pas encore fléchi le genou devant toi comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul qui sauve, qu'aujourd'hui, ça soit le jour de leur délivrance, le jour où est-ce qu'ils se placent, ils se confient en ton sacrifice, ils se placent sous ton règne, bienveillant toi, le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Merci Seigneur pour ce temps. Fais ton œuvre comme juste toi es capable de le faire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen.